Chapitre 90. Novembre est éternel, la vie est presque belle, les souvenirs sont des impasses que sans cesse on ressasse. Juin 1998. Alors qu'il y avait à peine 200 km d'autoroute entre Mâcon et Valence, le chemin lui avait paru interminable. Quand Philippe roulait au hasard, aucune route ne lui paraissait longue. Mais quand il devait se rendre d'un point A à un point B, il rechignait. Il ne supportait jamais la contrainte. Depuis que Violette avait découvert qu'il cherchait à connaître la vérité, il avait perdu l'envie. Comme si porter ce secret seul le faisait tenir dans une recherche chimérique, et que d'en avoir parlé l'avait démobilisé, totalement. La parole ne l'avait pas libéré, mais vidé. Même Violette semblait avoir tourné le dos au passé. Il parlerait avec Héloïse Petit, puis il passerait à autre chose. Ce rendez-vous avec l'ancienne monitrice était comme un dernier rencard avec le passé. Héloïse Petit l'attendait comme prévu devant le cinéma où elle travaillait. Elle se tenait sous les horaires des séances. Au-dessus d'elle, une immense affiche du patient anglais avait été accrochée. Philippe l'avait tout de suite repérée, malgré l'agitation qui régnait devant les caisses. Le va-et-vient des clients qui entraient et sortaient des salles de projection. Il s'était vu 2 ans auparavant au procès. Il s'était reconnu tout de suite. Comme si elle avait eu peur du « qu'en dira-t-on », Héloïse avait entraîné Philippe dans la cafétéria d'un relais H, installé à 2 rues de là, pas très loin de la gare de Valence. Ils avaient marché côte à côte, en silence. Philippe ressentait toujours ce grand vide, ce découragement. Il s'était demandé ce qu'il fichait là, sur ce trottoir. Il n'avait même plus de questions à poser à Héloïse. Qu'est-ce qu'elle en aurait à foutre d'un chauffe-eau? Qu'est-ce qu'elle y connaissait, elle, en chauffe-eau? Ils avaient commandé 2 croque-monsieur, 1 Carvitel et 1 Coca. Il émanait une grande douceur d'Héloïse. Philippe s'était senti en confiance avec elle, contrairement à tous les autres. Elle ne chercherait pas à mentir. Elle semblait sincère avant même d'avoir ouvert la bouche. Héloïse avait raconté l'arrivée des enfants le 13 juillet 1993, la répartition des chambres qui s'était faite par affinité. Les enfants qui se connaissaient déjà ne souhaitaient pas être séparés. Lucie Lindon et elle avaient tenté de faire plaisir à tout le monde et semblaient y être parvenues. Avec l'aide des monitrices, les petites avaient rangé leurs vêtements et leurs effets personnels dans les casiers de leur chambre, près de leur lit. Ensuite, il y avait eu le goûter, puis une promenade dans le parc du château, le passage au pré pour voir les poneys, les ramener aux écuries pour la nuit. Les enfants avaient adoré doucher les animaux, s'éclabousser entre elles, les panser, les rentrer au box, les nourrir avec l'aide des adultes. Elles étaient gaies comme des pinsons quand elles étaient passées à table pour le dîner. Le réfectoire bruyant, 24 petites filles joyeuses, ça parle fort. Elles avaient rejoint leurs chambres respectives autour de 21h30, après être passées à la salle des douches communes. Pourquoi ne se sont-elles pas lavées dans la salle de bain de leur chambre? Cette question avait surpris Héloïse. « Je ne sais plus. La salle des douches était neuve. Je me souviens m'être lavée là aussi. » Héloïse avait réfléchi en se mordillant les lèvres. « Je me souviens, il n'y avait pas d'eau chaude dans le cabinet de toilette de ma chambre. Pourquoi ?» Elle avait gonflé ses joues comme si elle était en train de souffler dans un ballon de baudruche et répondu « Désolée, je ne sais pas. C'était des vieux tuyaux. » Le château tombait un peu en ruine. Ça sentait pas mal le moisi là-dedans. Et puis, quand il fallait demander à Fontanelle de changer ne serait-ce qu'une ampoule, on pouvait toujours attendre. Les enfants arrivaient du nord et de l'est de la France, avait poursuivi Héloïse. Le voyage, la chaleur, cette fin d'après-midi les avaient épuisés. Elles étaient allées se coucher sans rechigner. Lucie Lindon et elle avaient fait le tour des chambres autour de 21h45 pour voir si tout allait bien. 6 chambres en tout, 3 au rez-de-chaussée et 3 à l'étage. 4 enfants par chambre. Les petites étaient toutes couchées. Certaines lisaient, d'autres parlaient, s'échangeaient de lit à lit des photographies ou des dessins. Des conversations d'enfants. « Il est beau ton pyjama, tu me prêteras ta robe? Je voudrais les mêmes chaussures que toi. » Leur chat, leur maison, leurs parents, leurs frères et sœurs, l'école, la maîtresse, les copines, et surtout les poneys. Elle ne pensait qu'à cela. Le lendemain, elle monterait à poney. Héloïse Petit avait hésité avant de parler de la chambre 1 à Philippe. D'ailleurs, elle n'avait pas nommé Léonine, Anaïs, Océane et Nadège. Juste dit « les enfants de la chambre 1 » en baissant les yeux quelques instants avant de reprendre. C'était la dernière chambre où les monitrices étaient passées. Les petites étaient déjà à moitié endormies quand Lucie Lindon et elle y étaient entrées pour leur demander si tout allait bien, donner une petite lampe de poche à chacune au cas où elles auraient besoin de se lever durant la nuit, leur dire que Lucie se trouvait dans la chambre d'à côté si l'une d'entre elles faisait un cauchemar ou avait mal au ventre. Une veilleuse resterait allumée dans le couloir toute la nuit. Ensuite, Héloïse avait rejoint sa chambre à l'étage et Lucie retrouvait Swann Le Tellier. Geneviève Magnan devait rester à proximité des chambres du rez-de-chaussée pendant ce temps. Avant que les deux monitrices ne montent à l'étage, elles avaient vu Geneviève assise dans les cuisines. Elle nettoyait des casseroles en cuivre étalées sur la grande table. Elle leur avait dit bonne nuit, d'un air triste ou là. Héloïse n'aurait pas su dire. Je suis montée dans ma chambre, je me suis assoupie. À un moment, je me suis levée pour fermer ma fenêtre qui cognait contre le chambranle. Une étrange lumière était passée dans les yeux bleus d'Héloïse Petit, comme si elle revivait ce moment, qu'elle regardait quelque chose passer au loin par la fenêtre, comme quand on regarde par-dessus l'épaule de son interlocuteur lorsqu'on repère une silhouette familière ou un mouvement inattendu qui interpelle. « Vous avez vu quelque chose ?»«
Quand ?»«
Quand vous avez refermé votre fenêtre ?»«
Oui. »«
Quoi ?»«
Eux. »«
Qui eux ?»
Vous le savez.
Geneviève Magnan et Alain Fontanelle ? Héloïse Petit avait haussé les épaules. Philippe n'avait pas su interpréter ce geste.
C'est vrai que vous avez eu une liaison avec Geneviève ?
Philippe s'était raidi. Qui vous a dit ça ?
Lucie.
Elle m'a dit que Geneviève vous aimait. Philippe avait fermé les yeux quelques secondes et lui avait répondu, la mort dans l'âme, « C'est de ma fille que je suis venu parler. » Qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Je veux savoir qui a démarré le chauffe-eau dans la salle de bain de la chambre 1. Les enfants ont été asphyxiés par du monoxyde de carbone. Pourtant, tout le monde savait qu'il ne fallait pas y toucher à ces putains de chauffe-eau.
Philippe avait crié trop fort. Les clients, le nez dans des journaux et dans la queue près des caisses, s'étaient retournés pour les regarder tous les deux. Héloïse avait rougi, comme s'il s'agissait d'une querelle d'amoureux. Elle avait parlé à Philippe comme on s'adresse à quelqu'un qui a perdu la raison, comme on parle doucement aux fous pour ne pas les contrarier.
« Je ne comprends pas ce que vous dites. »
« Quelqu'un a démarré le chauffe-eau dans la salle de bain. »«
Quelle salle de bain ?»«
Celle de la chambre qui a brûlé !»
Philippe avait vu qu'Héloïse ne comprenait pas un traître mot de ce qu'elle racontait. À ce moment, il s'était mis à douter.
Cette histoire de chauffe-eau ne tenait pas debout, c'était n'importe quoi. Il fallait se rendre à l'évidence, Geneviève Magnan ou Alain Fontanelle avaient mis le feu à la chambre 1 pour se venger de lui.
C'est ça qui aurait déclenché le feu, le vieux chauffe-eau ?
La question d'Héloïse l'avait tirée de ses sinistres pensées.
Non, le feu ce serait Fontanelle, pour faire croire à un accident domestique, il aurait couvert Magnan.
Mais pourquoi ?
Parce qu'elle se serait barrée ce soir-là, elle ne serait pas restée près des petites, et quand elle serait revenue, elle les aurait... C'était trop tard, les enfants s'étaient asphyxiés.
Héloïse avait ramené ses deux mains devant sa bouche. Ses grands yeux bleus s'étaient mis à briller. Philippe s'était souvenu du jour où il avait nagé pour retrouver Françoise dans la Méditerranée et qu'elle s'était débattue. Héloïse avait l'air paniquée comme elle, à la limite de la noyade. Philippe et Héloïse ne s'étaient plus adressé la parole pendant 10 bonnes minutes. Ils n'avaient pas touché à leur assiette. Philippe avait fini par commander un expresso. « Vous voulez autre chose ?»«
C'est peut-être eux. »«
Fontanelle et Magnan, oui. Non, les gens. »«
Quels gens ?»«
Le couple que vous connaissez, que j'ai vu partir de la cour quand j'ai refermé ma fenêtre. »«
Quel couple ?»
Les gens avec qui vous êtes venus le lendemain de l'incendie, vos parents, enfin je crois que ce sont vos parents.
Je comprends rien à ce que vous me dites.
Mais quand même, vous savez bien qu'ils sont venus au château ce soir-là, non ?
Quels parents ?
Philippe avait senti qu'il perdait pied.
comme s'il tombait du dernier étage d'un gratte-ciel. « Le 14 juillet, vous êtes arrivés ensemble. J'ai cru que vous saviez qu'ils étaient passés au château la veille. Ça arrive tout le temps que des familles viennent rendre visite aux enfants, mais jamais en soirée. C'est pour ça que ça m'a surprise. » « Vous êtes cinglé. Mes parents habitent Charleville-Mézières. Ils ne pouvaient pas être en Bourgogne le soir de l'incendie. Ils y étaient, je les ai vus, je vous le jure. Quand j'ai fermé ma fenêtre, je les ai vus quitter le château. »
« Vous devez confondre.
Non, votre mère, son chignon, son allure. Je ne confonds pas. Je les ai revus le dernier jour du procès à Mâcon. Ils vous attendaient devant le tribunal. »
Alors Philippe se rappela. Ce fut fulgurant, un choc. Comme si un infime détail, tapis dans son inconscient depuis des années, lui apparaissait en plein jour. Quelque chose d'anormal, une incohérence qui, vu les circonstances, ne l'avait pas atteint, juste effleuré ce 14 juillet 1993. Il avait téléphoné à ses parents et leur avait dit « Léonine est morte ». Ils étaient venus le chercher quelques heures après et pour la première fois, Philippe était monté à l'avant, à côté de son père. Sa mère était allongée sur la banquette arrière. Abattu, abruti par le chagrin, Philippe n'avait pas ouvert la bouche de tout le trajet. De temps en temps, il entendait sa mère geindre à l'arrière. Il savait que son père récitait des Ave Maria en silence. Quand Philippe pensait à son géniteur, il pensait à un bigot qui filait droit devant sa femme. Philippe avait rêvé d'être le fils de Luc, son oncle. Dame Nature s'était gourée. Il était né de la sœur quand il aurait voulu naître du frère. Au moment où Héloïse avait évoqué ses parents, il se rappela que son père n'avait pas cherché son chemin. Il ne lui avait pas demandé d'adresse et il s'y était rendu comme s'il connaissait l'itinéraire. En quittant l'autoroute, le village de la Clayette était signalé, mais rien n'indiquait la direction à prendre pour se rendre au château. Or, lorsqu'il était enfant, ses parents se disputaient toujours parce que son père n'avait aucun sens de l'orientation et que sa mère s'agaçait. S'il ne s'était pas perdu ce jour-là, c'est peut-être parce qu'il y était déjà allé auparavant. Héloïse le dévisageait tandis qu'il refaisait cette sinistre expédition mentalement. Malgré l'effroi qui se lisait sur son visage, elle pensa qu'il était beau. Elle essaya de se souvenir des traits de Léonine, mais n'y parvint pas. Les quatre enfants avaient disparu de sa mémoire. Elle les cherchait tout le temps, mais ne les trouvait plus. Il ne lui restait que leur voix, quand elles avaient posé des questions à propos des poneys. Elle n'avait pas dit à Philippe que Léonine avait égaré son doudou et que toutes les deux, elle l'avait cherché partout. Léonine lui avait dit « Doudou, c'est un lapin qui a mon âge ». En attendant de remettre la main dessus, Héloïse lui avait dégoté un petit ours oublié dans les réserves. Et elle avait promis à Léonine que le lendemain matin, elle chercherait Doudou partout dans le château et qu'elle le retrouverait. Philippe la ramena sur terre. « Je veux que vous juriez sur la tête de Léonine que vous ne direz jamais ça à personne. » Héloïse se demanda si Philippe venait de l'entendre penser. Elle fut incapable de prononcer un mot. Il insista. « Tous les deux, on ne s'est jamais vus, jamais parlé. Jurez !» Comme si elle était au tribunal, Héloïse leva la main droite et dit « Je le jure. » « Sur la tête de Léonine ?»« Sur la tête de Léonine. » Philippe inscrivit le numéro de téléphone fixe de la maison du cimetière de Brancion et le lui tendit. « Dans 2 heures, vous appelez ce numéro. » « Ma femme va vous répondre, vous vous présentez, vous lui dites que je ne suis pas venue au rendez-vous, que vous m'avez attendu tout l'après-midi. Mais, s'il vous plaît. » Héloïse eut pitié, elle acquiesça. « Et si elle me pose des questions, elle ne vous posera pas de questions. Je l'ai trop déçue pour qu'elle en pose. » Philippe se leva pour régler l'addition. Il salua brièvement Héloïse en récupérant son casque et remonta sur sa moto garée devant le cinéma. En jetant un coup d'œil aux gens qui entraient et sortaient des salles, il se rappela les mots de sa mère. « Ne fais confiance à personne, tu m'entends? Personne !» Presque 700 kilomètres, il ferait nuit quand il arriverait à Charleville-Mézières. Philippe observa un moment ses parents à travers la fenêtre du salon. Ils étaient assis côte à côte sur leur canapé sans âge, aux fleurs desséchées, comme celles sur les tombes abandonnées, celles que Violette ne supportait pas et retirait. Le père s'était endormi,
La mère était plongée dans un feuilleton, une rediffusion. Violette l'avait déjà vue. Une histoire d'amour entre un curé et une jeune fille qui se déroulait en Australie ou une autre contrée lointaine. Violette avait pleuré en douce à certains moments. Il l'avait sentie essuyer ses larmes sur sa manche. Sa mère fixait les acteurs, les lèvres pincées, comme si elle trouvait qu'ils faisaient les mauvais choix et qu'elle avait envie de ramener sa fraise. Pourquoi avait-elle choisi ce programme à l'eau de rose? Si l'heure n'avait pas été aussi grave, Philippe en aurait ri. Philippe avait grandi dans cette maison qui, à présent, lui semblait être un décor. Avec les années, les arbustes avaient poussé, les haies s'étaient étouffées. Ses parents avaient fait remplacer le grillage par une palissade blanche, comme dans les séries américaines, refait le crépi de la façade et posé deux statues de lions de chaque côté de la porte d'entrée. Les fauves en granit semblaient s'ennuyer ferme dans ce pavillon des années 70. Mais il fallait montrer au voisinage qu'on était cadre dans la fonction publique. Ses parents, tous deux retraités des PTT, lui d'abord facteur et elle agent administratif, avaient grimpé les échelons et étaient devenus des cadres de petite catégorie. Et quand l'argent avait fini par arriver, on avait épargné. Philippe avait toujours les clés sur lui. Il trimbalait le même trousseau depuis l'enfance, un minuscule ballon de rugby qui avait perdu sa forme et ses couleurs. Ses parents n'avaient jamais changé les serrures, pourquoi faire? Qui aurait pu avoir envie d'entrer là-dedans et tomber sur le père perdu dans ses prières, la mère dans la rancœur, de cornichons dans un bocal de vinaigre? Il n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis des années, depuis sa rencontre avec Violette. Violette. Jamais il ne l'avait invitée. Il l'avait toujours méprisée. Chantal Toussaint hurla quand elle aperçut son fils dans l'encadrement de la porte du salon. Son cri réveilla son mari qui sursauta. Au moment d'ouvrir la bouche, Philippe vit des portraits de Léonine accrochés au mur, dont deux qui avaient été pris à l'école. Cela le ramena à Geneviève Magnan, son sourire dans les couloirs aux odeurs d'ammoniac. Il fut pris d'un vertige et se rattrapa au buffet. Violette avait décroché les portraits de leur fille. Elle les avait rangés dans un tiroir près de son lit, dans son portefeuille et entre les pages du gros livre qu'elle relisait sans cesse. Sa mère s'approcha de lui en murmurant « Ça va, mon petit ?» D'un geste, Philippe lui intima l'ordre de ne pas avancer, de garder ses distances. Le père et la mère se regardèrent. Leur fils était-il malade? Fou? Il était d'une pâleur effroyable. Il avait le même air qu'au matin du 14 juillet 1993, lorsqu'il l'avait emmené sur le lieu du drame. Il avait pris 20 ans. « Qu'est-ce que vous foutiez au château le soir où il a brûlé ?» Le père jeta un coup d'œil à la mère, attendant les ordres pour répondre. Mais comme d'habitude, c'est elle qui parla. D'une voix de victime, celle de la gentille petite fille qu'elle n'avait jamais été. Armel et Jean-Louis Cossin nous ont retrouvés au village de la Clayette avant de déposer Catherine, enfin Léonine, et Anaïs au château. Nous leur avions donné rendez-vous dans un café. On n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Nous étions à un mariage dans le midi. Tu sais, ta cousine Laurence. En remontant sur Charleville, nous en avons profité pour visiter la Bourgogne. Vous n'avez jamais profité de rien. Jamais. Je veux la vérité. La mère hésita avant de répondre, serra les lèvres et prit une grande inspiration. Philippe l'arrêta immédiatement. Ne commence pas à pleurnicher, tu seras gentille. Jamais son fils ne lui avait parlé ainsi. Le garçon poli bien élevé qui disait « Oui, maman, non, maman, d'accord, maman » était bel et bien mort. Il avait commencé à disparaître quand il avait perdu sa fille. Il avait complètement disparu depuis qu'il s'était enterré auprès d'elle. Philippe les avait prévenus « Je vous interdis de mettre un pied au cimetière. Je ne veux pas que vous croisiez Violette. » Avant la tragédie, les seules fois où il avait désobéi à sa mère, c'était quand il partait en vacances chez son frère Luc et sa jeune épouse, qui portait des jupes trop courtes. Philippe avait toujours été attiré par des femmes de bas étage, des filles, le bas de gamme, le ruisseau. La voix de Chantal Toussaint retrouva son timbre dur, implacable, celui d'un procureur. « J'avais donné rendez-vous au Cossin parce que je souhaitais voir ce que ta femme avait mis dans la valise de notre petite fille. Contrôler qu'il ne manquait rien. Je ne voulais pas qu'elle ait honte devant ses camarades. Ta femme était jeune et Catherine trop souvent négligée. Ses ongles longs, ses oreilles sales, ses vêtements tachés ou rétrécis au lavage, ça me rendait malade. Tu dis n'importe quoi. Violette s'occupait très bien de notre fille. Elle s'appelait Léonine, tu m'entends ? Léonine !
Elle referma sa robe de chambre d'un geste maladroit et brusque.
Armelle Cossin a ouvert le coffre de sa voiture. J'ai vérifié le contenu de la valise pendant que les petites jouaient à l'ombre à côté de ton père et de Jean-Louis. Il manquait beaucoup de choses et j'ai dû jeter ses affaires bon marché ou élimées pour mettre des vêtements neufs.
Philippe imagina sa mère appelant Armelle Cossin sous un faux prétexte et triturant les petites robes de sa fille. Ce droit d'ingérence qu'elle se permettait depuis toujours lui répugna. Il eut envie d'étrangler cette femme qui lui avait fait mépriser les autres. Elle baissa les yeux pour ne plus voir le regard de haine qu'il posait sur elle.
Vers 16h, les Cossins sont partis au château avec les enfants. Ton père et moi ne voulions pas prendre la route pour Charleville avant la nuit à cause de la chaleur. Nous avons décidé de rester au village. Nous sommes revenus au café pour manger une bricole. En allant aux toilettes, j'ai vu le doudou de Léonine posé à côté des lavabos. Je savais qu'elle ne pouvait pas s'endormir sans.
Chantal Toussaint grimaça.
Il était très sale. Je l'ai passé à l'eau et au savon. Avec la chaleur, il sécherait vite.
Elle alla s'asseoir sur le canapé comme si les mots étaient trop lourds à porter. Son mari la suivit comme un brave toutou attendant une récompense, un regard, un geste tendre qui ne viendrait jamais.
Nous sommes entrés dans le château comme dans un moulin. Il n'y avait personne, aucune surveillance, tout était grand ouvert. Léonine se trouvait derrière la première porte que nous avons poussée. Elle était déjà couchée. Elle a été surprise de nous voir. Quand elle a vu son doudou dépasser de mon sac à main, elle a souri et l'a saisi discrètement pour que les autres fillettes ne la voient pas. Elle avait dû le chercher partout sans pouvoir le dire, de peur que l'on se moque d'elle.
La mère se mit à sangloter. Son mari glissa un bras autour de ses épaules. Elle le repoussa d'un geste lent. Il le retira, habitué.
J'ai demandé aux fillettes si elles voulaient que je leur raconte une histoire. Elles m'ont répondu oui. Je leur ai lu un conte de Grimm, Tom Pouce. Elles se sont endormies aussitôt. Avant de partir, j'ai embrassé ma petite fille une dernière fois.
Et le chauffe-eau ! Hurla Philippe.
Ses parents, en larmes, se recroquevillèrent, misérables, devant la fureur de leur fils.
« Quoi, le chauffe-eau ? Quel chauffe-eau ? » finit par murmurer sa mère entre deux sanglots. « Celui de la salle de bain ! Dans la chambre, il y avait une salle de bain et un putain de chauffe-eau ! C'est vous qui l'avez touché ?»
Le père ouvrit la bouche pour la première fois et lâcha dans un soupir.
« Ah, ça !»
À cet instant, Philippe aurait tout donné pour qu'il se taise, comme à son habitude, ou dise une prière n'importe laquelle. Mais pour une heure seulement, l'homme eut le sentiment d'avoir été utile dans la vie de sa femme, de ne pas être resté les bras ballants à attendre qu'elle finisse de raconter l'histoire de Tom Pouce.
« Ta mère a demandé à Léonine si elle s'était bien brossé les dents avant de se coucher. Elle nous a répondu oui. Mais une autre fillette nous a dit qu'il n'y avait pas d'eau chaude au robinet, que l'eau froide lui avait fait mal aux dents. « Ta mère m'a demandé de jeter un coup d'œil, et effectivement, j'ai vu que le chauffe-eau était éteint, alors j'ai... »
Philippe tomba à genoux devant ses parents, saisit son père à deux mains par le col de sa robe de chambre et le supplia.
« Tais-toi, 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 tais-toi !»
Ses parents étaient tétanisés. Philippe balbutia encore quelques mots inaudibles, puis quitta cette maison comme il y était entré, en silence. Quand il remonta sur sa moto, il savait qu'il ne prendrait pas le chemin du cimetière de Brancion. Il savait qu'il n'avait plus de chez lui, ni ce soir, ni demain. Il le savait depuis qu'il avait demandé à Héloïse Petit de téléphoner à Violette pour lui dire qu'il ne s'était pas présenté à leur rendez-vous. Violette, qui ne l'attendait plus depuis longtemps. Le matin, quand il lui avait annoncé qu'il voulait repartir à zéro, s'installer dans le midi, il avait lu dans ses yeux qu'elle faisait semblant de le croire. Aujourd'hui, il ne pouvait plus l'affronter. Il ne voulait plus jamais croiser son regard.
Chantal Toussaint lui courut après en robe de chambre pour le raisonner. C'était dangereux de prendre la route dans cet état. Il était trop fatigué, à bout, et il fallait qu'il se repose. Elle allait lui préparer son lit. Elle n'avait touché à rien dans sa chambre, même pas à ses posters. Elle allait lui cuisiner un bœuf stroganoff et la crème caramel dont il raffolait. Demain, il aurait les idées plus claires et... J'aurais voulu que tu meures à ma naissance, maman. Ça aurait été la chance de ma vie. Il démarra sa moto et prit la direction de Bron, sans réfléchir. Dans les rétroviseurs, il vit sa mère s'écrouler sur le trottoir. Il savait que ces mots avaient signé son arrêt de mort. Aujourd'hui ou demain, et son père suivrait. Il avait toujours suivi. Il ne ressentit rien d'autre que l'envie d'être près de Luc et Françoise pour tout leur raconter. Il saurait quoi faire, il saurait trouver les mots, il saurait le garder près d'eux pour qu'il n'ait plus de compte à rendre à personne, redevenir l'enfant qu'il voulait être, celui de Luc. C'en était fini de cette vie.